Alors maintenant, oui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce temps? Ah ben par exemple, écouter lire. Ah oui, bonne idée! Écouter lire l'émission de Radio Alto, c'est maintenant.
Bonjour, continuons aujourd'hui le voyage autour de la Terre sur le thème « La planète et moi » que nous proposent les Restos du Cœur en publiant un recueil de nouvelles. Aujourd'hui, de Karine Giebel, Lobo. De Karine Giebel, Lobo. L'humanité s'installe dans la monoculture, elle s'apprête à produire la civilisation en masse comme les betteraves. Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, 1955. C'est comme une île au milieu d'un océan de haine et de cupidité. Une île au milieu du désastre. Les anciens disent qu'avant, leur territoire ne connaissait pas de limite, qu'il était aussi vaste que l'univers, aussi profond que l'océan. Les anciens disent qu'aujourd'hui, il se réduit comme une flaque d'eau au soleil, que leur île se meurt, comme leur peuple ou leur tradition. Il y a quelque temps encore, Erisvan ne se posait pas beaucoup de questions, il vivait, c'est tout. Il jouait comme tous les garçons de son âge à grimper aux arbres ou à faire semblant de se battre. Il allait à l'école du village, se baignait dans la rivière, il riait, inconscient de la menace. Il vivait, c'est tout, entouré de sa famille et de tous les membres de son clan, de sa tribu. Mais depuis plusieurs semaines, Erisvan se demande combien de temps encore il pourra vivre cette vie. Combien de temps encore il pourra se baigner dans la rivière? Il se demande si bientôt il restera un arbre sur lequel tester son courage, si bientôt il ne devra pas se battre pour de vrai. Erisvan a changé depuis qu'il a vu au-delà de son île. Bien sûr, il savait certaines choses, mais tant qu'on n'a pas vu. Au début de la saison sèche et pour la première fois de sa vie, il a quitté son sanctuaire, la réserve d'Arariboya, dans l'état du Maranhão. Paolo, son père, l'a emmené jusqu'à Imperatrice, une grande ville située au sud. « Il est temps que tu vois le monde », a décrété l'adulte, « que tu le vois tel qu'il est ». À bord du vieux pick-up de Laercio, le cousin de Paolo, ils ont emprunté des pistes caoteuses, trouées irrégulières au milieu de la jungle. Erisvan était à la fois anxieux et excité, très fier de voyager aux côtés de son père. « Pourquoi on va à Imperatrice? Je dois me connecter à Internet pour envoyer des photos qui sont sur mon téléphone. »« À qui? À une organisation qui nous aide. Comme ça, le monde entier pourra les voir. Le monde pourra voir ce que font les gardiens. Il faut que les gens sachent. Pourquoi? Parce que seuls, nous n'y arriverons pas, » a soupiré Paolo. « On n'arrivera pas à quoi ?» s'est inquiété le jeune garçon. « Tu verras. Parce que toi aussi, il faut que tu saches. » Tu as l'âge, maintenant. Enfin, ils ont atteint la lisière de la forêt. Au-delà, pour Erisvan, c'était l'inconnu. Ils ont traversé des paysages étranges, hérissés d'arbres calcinés, comme des squelettes menaçants, encore fumants. Des hectares ravagés par les flammes. Sur les larges routes de terre rouge, ils ont croisé ou dépassé des camions par dizaines qui soulevaient la poussière en gros nuages de sang. Dans certains d'entre eux, Erizvan a aperçu des animaux entassés, au regard implorant. « Où vont-ils ? À la mort, » a répondu son père. Après la zone brûlée, la route était cernée d'immenses champs à perte de vue. Paolo lui a confié que les colons y cultivaient du soja, une plante servant à nourrir le bétail et qui s'exporte dans le monde entier. Erizvan ignorait ce qu'était le bétail, jusqu'à ce que son père lui explique qu'il s'agissait d'animaux élevés par les hommes pour les manger. Et peu après, le jeune garçon les a vus. Des centaines de vaches blanches et maigres qui lui ont fait de la peine, qui lui ont fait pitié. « Mais qui mange autant de vaches » a-t-il demandé. « Et quel goût ça a ? Ils viennent jusqu'ici avec des fusils pour les tuer ?» Alors Paolo lui a tout révélé. Les abattoirs où l'on égorge à la chaîne, la viande congelée expédiée aux quatre coins de la planète, les fast-foods, les supermarchés. Au fil des mots et des kilomètres, la peine d'Erizvan a grossi, allant jusqu'à lui serrer le cœur. Raconté par Paolo, le monde était devenu laid tout d'un coup, triste et laid. C'est pour des vaches et du soja qu'ils brûlent leurs forêts, jusqu'aux frontières de leurs réserves. Avant ce voyage, Erizvan connaissait le problème des bûcherons illégaux, qui violent leur sanctuaire pour venir abattre les arbres. Il savait aussi que la forêt se consumait au loin. Il savait que le nouveau président du Brésil, un certain Bolsonaro, avait décrété que les territoires protégés des Indiens devaient être exploités, leurs richesses appréhendées. Qu'ils n'étaient rien, rien que des primitifs, des sauvages. Mais depuis cet aller-retour vers Impératrice, le jeune garçon est au courant de tout ce que les hommes infligent à son pays, à sa forêt, et il comprend bien mieux l'importance du travail des gardiens. Paolo en est un. Il est même l'un des leaders du groupe, qui compte plus d'une centaine d'hommes. Les gardiens de la forêt se relaient pour des patrouilles dans toute la réserve, de nuit comme de jour. Certains sont équipés de vieux fusils rouillés, d'autres d'armes plus sommaires encore. Lorsqu'ils surprennent les bûcherons, ils s'en saisissent, les attachent à un arbre, en attendant que la police vienne les chercher. Avant de les abandonner, ils mettent le feu à leur campement et à tout leur matériel. Pour Erizvan, Paolo est plus qu'un père, c'est un héros, presque un dieu. Ici, on le surnomme Lobo, le loup. Erizvan s'est approché de la Malocca. Il espionne ce qui se dit à l'intérieur de la maison communautaire, l'épicentre du village. Aujourd'hui, ils reçoivent la visite de Sonia, une femme importante du peuple Guarara, une femme qui se bat pour le respect de leurs droits, qui voyage à travers le monde pour porter leur voix. Erizvan entend parler de menaces de mort, de tueurs à gages payés par la mafia du bois. Certains disent qu'il faut arrêter la lutte ou changer la façon de la mener. D'autres ne sont pas d'accord. Chacun promet de réfléchir. Quand les adultes sortent, Erizvan considère Sonia avec admiration. Elle devise un moment avec Paolo, puis quitte le village. Alors, le jeune garçon se dirige vers son père. « Je veux être gardien, comme toi. » Tout en marchant, Paolo lui répond « Mais tu es trop jeune. »« Non, je peux tenir un fusil. »« Tu es trop jeune, c'est tout, et trop petit. » Vexé, Erizvan fait la moue. « Tu m'as dit que j'avais l'âge de savoir toutes ces choses. » L'âge de savoir, mais pas encore celui de combattre. Erizvan ne comprend pas. Son père le dévisage avec un sourire un peu triste. « Trop jeune pour mourir, mon garçon. »« Bientôt, si tu le souhaites, tu pourras nous rejoindre, » ajoute-t-il. « C'est quand, bientôt ? Quand tu seras un homme ?» Fin de la discussion. Erizvan se tait tout en continuant à suivre son père. Il est grand, il est fort et il a un beau visage. Quand il sourit ou quand il rit, ses yeux sont doux. Mais la colère peut les durcir jusqu'à les rendre terrifiants. Ils ont tué un Nahua, dit soudain Paolo de sa voix posée. Un petit garçon plus jeune que toi. On l'a retrouvé brûlé vif. Et ses parents, ils se sont enfuis, je suppose. Les Nahua, Erizvan ne les a jamais vus. Il faut dire qu'ils sont de moins en moins nombreux. D'après ce qu'il sait, ce sont des nomades, chasseurs et cueilleurs. Et les anciens racontent qu'ils recueillent des animaux sauvages qui deviennent des membres à part entière de leur famille. Ils vivent sur le même territoire que les Guarara, mais n'ont, pour certains, jamais été contactés. Erizvan sait que c'est aussi pour protéger les derniers Nahua que les gardiens mènent cette lutte. Pour ce petit garçon brûlé vif, il est déjà trop tard. Les awas risquent de disparaître, reprend Paolo. La saison sèche commence, les trafiquants de bois sont revenus. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils tuent? Ils veulent tout notre territoire, résume Paolo. Ils veulent notre bois, notre espace, l'or et tous les minerais qu'il y a dans notre terre. Alors, nous devons nous battre, protéger les awas, les arbres, les animaux, les oiseaux. Sinon, nous devrons partir. Partir? Répète son fils d'une voix blanche. Et on ira où? Dans une ville, comme celle que je t'ai montrée. Et Rizvan fait une nouvelle fois la moue. Il n'a pas la moindre envie d'aller vivre à Impératrice. Il a cru étouffé là-bas. Pourtant, il n'y restait qu'une journée, alors toute une vie. Assis au bord de la rivière, Rizvan réfléchit. Dans son esprit, tout est aussi trouble que l'eau qui coule devant lui. Une menace diffuse et silencieuse forme des cercles concentriques autour de lui. Il a soudain du mal à respirer. Non, les Guarara ne peuvent pas vivre comme ça. Dans ces blocs de béton, hauts comme des arbres, si loin du ciel et de la terre. Paolo, Laercio et les autres gardiens empêcheront le malheur d'arriver. Et puis, il y a Sonia qui parle de leur combat partout dans le monde. Mais qui pourrait bien les aider? Qui pourrait bien s'intéresser à eux? Il regarde les enfants qui se baignent et pense à ce petit awa brûlé vif dans la forêt. Connaîtront-ils le même sort? Des histoires d'indigènes assassinés, Rizvan en a entendu beaucoup ces dernières années. Certains gardiens ont péri, ainsi que beaucoup d'autochtones. Il secoue la tête comme pour chasser ses funestes pensées. « Nous, les êtres vrais, nous resterons chez nous, » murmure-t-il. « Ici, chez nous. » Guarara signifie « Nous sommes les êtres vrais. » Paolo se regarde dans le rétroviseur du vieux pick-up de l'Aercio. Il enduit le bout de son index de pigments noirs et trace lentement des traits verticaux sur son visage. D'après les anciens, ces peintures ont une vertu protectrice, se protéger avant de partir au combat. Le jeune homme s'aperçoit qu'Erizvan l'observe, assis non loin de là. « Je veux partir avec toi. Je t'ai dit non et je t'ai dit pourquoi. Je suis fort, moi aussi, et je veux défendre la forêt. » « Un jour, tu seras auprès de moi, » le rassure Paolo. « Mais ce jour n'est pas encore arrivé. » Vaincu, Rizvan s'éloigne. « Ne sois pas si pressé, » murmure Paolo. Un vieux du village approche, un agouti sur les épaules. Il revient de la chasse avec une proie de choix. Les deux hommes se saluent et l'ancien lui dit « Il y a de moins en moins d'animaux. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. » « À mon tour d'aller à la chasse, » répond Paolo, « et mon gibier, il ne manque pas. » Tandis que son père partait en patrouille avec Laercio et les autres gardiens, Rizvan a aidé sa mère à la cueillette. Mangue, noix d'anacardier, mais aussi miel ou champignons. La forêt leur donne tout, elle les nourrit et les soigne. Ses parents cultivent un petit lopin de terre où poussent du manioc et des camotes. Estivan adore ça, les camotes. C'est sucré, c'est délicieux. Souvent, le jeune garçon accompagne son père à la chasse. Pour le moment, il ne fait qu'observer, s'initier. Parfois, il rapporte un agouti, un capybara ou un singe. Parfois, il ne rapporte rien. Paolo lui répète sans cesse que les animaux comme les hommes ont une âme et qu'il faut les respecter. Ne jamais tuer plus qu'on ne pourra manger. Il lui apprend les plantes, les arbres, les insectes, et les esprits de la forêt, qu'ils soient bien ou malveillants. Rizvan a un faible pour le Curupira, cet être étrange, aussi rapide que l'éclair et qui protège la faune et la flore. Son père lui a dit une fois, « Il tolère les chasseurs qui tuent pour se nourrir, mais gare à ceux qui tuent pour le plaisir. » Depuis, Rizvan rêve de l'apercevoir et même de lui parler. Il pourrait alors lui demander d'aider son père à lutter contre les trafiquants de bois, lui qui est capable d'étourdir quelqu'un, rien qu'à sa voix. Un homme à genoux, il fait face à un arbre, les mains attachées dans le dos. Paolo pose le canon de son fusil sur la nuque du bûcheron. Il s'adresse à lui dans un portugais presque imparfait. « Je t'avais dit de ne jamais revenir ici. Je t'avais dit de laisser notre forêt tranquille. « Ne me tue pas !» supplie le pénitent. « Ne me tue pas !» Paolo a le doigt sur la détente, le visage contracté. « C'est toi qui as tué le petit awa ? Non, non, c'est pas mes gars, je te le jure, je ne sais pas qui a fait ça. Nous, on n'a tué personne, nous, on n'a rien fait.
Paolo tourne la tête vers la remorque où s'entassent les troncs d'arbres centenaires. Des bois précieux, des essences de plus en plus rares, telles que l'ipé.
Il paraît qu'en Europe, aux États-Unis, on transforme cet arbre majestueux en parquet, en lame de terrasse ou encore en table de jardin. Ils sont en train de mutiler sa forêt et tous les êtres vivants qui s'y trouvent pour du parquet et des tables de jardin.
Si tu reviens, je te tuerai.
L'homme baisse la tête sous la pression de l'arme. T'as compris ?
Oui, ne tire pas.
Le canon s'éloigne de sa nuque. Paolo retourne le fusil et assène un violent coup de crosse entre les omoplates de sa victime avant de l'abandonner au crépuscule et à la peur.
Tandis que les bûcherons restent à genoux, ils jettent leur matériel dans la benne d'un des camions et aspergent le tout avec le contenu d'un jerrycan d'essence. Pendant que l'Aercio filme la scène, Paolo embrase le véhicule. Il brûlera tout, le campement, les camions, les tronçonneuses, les téléphones, les effets personnels et les grumes de bois précieux.
Erisvan ne se lasse pas de regarder les images qui défilent sur le téléphone de l'Aercio. Un petit film de quelques minutes qu'il a déjà visionné 3 fois. Oui, son père est un héros. Et quand il sera un homme, Erisvan en deviendra un à son tour. Un gardien de la forêt.
Le 1er novembre 2019, Paolo Paolino Guarara a été tué d'une balle en pleine tête après être tombé dans une embuscade tendue par des bûcherons illégaux. Il avait 26 ans, était marié et père d'un petit garçon. Peu avant sa mort, il confiait « J'ai peur, parfois, mais nous devons garder la tête haute et agir. » À ce jour, personne n'a été interpellé pour cet assassinat. En 1998, bien avant d'être élu président du Brésil, Jair Bolsonaro avait déclaré à la presse « Quel dommage que la cavalerie brésilienne ne se soit pas montrée aussi efficace que les Américains. Eux, ils ont exterminé tous leurs Indiens. »
Nous avons entendu de Karine Giebel, Lobo, extrait du recueil Très à table, vendu au profit des Restos du Cœur.
C'était Écouter lire, une émission de Radio Alto. Thank you.
Thank you.